Bonjour à tous, vous êtes toujours dans le patchwork d'Esprit Occitanie. Dans ma chronique Happy Work, ou comment mieux vivre en entreprise dans ce contexte particulier de reconfinement, je vais aborder aujourd'hui le thème de la résilience. Alors, ce thème de résilience, que signifie-t-il ? Eh bien, c'est le fait que certaines personnes qui vivent ou ont vécu les pires épreuves de la vie se remettent, avancent et restent positifs. Ce terme de résilience vient des sciences physiques et désigne à l'origine la résistance d'un matériau au choc et sa capacité à reprendre ensuite sa forme et ses propriétés initiales. C'est un processus psychologique qui montre les aptitudes plus ou moins grandes des êtres humains à faire face aux adversités de la vie et aux épisodes douloureux de l'existence comme la maladie, le deuil, la précarité, la violence, les abus, etc. Le mécanisme de la résilience permet de dépasser ces traumatismes et de trouver l'énergie de se reconstruire, de réussir à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou du risque d'une issue négative quand on sait que l'on a une maladie grave, par exemple. On développe les mécanismes de résistance dès l'enfance, en mettant en place des moyens de défense internes qui peuvent prendre la forme tout simplement de rêveries, d'abstractions, d'humour. Une personne résiliente ne nie pas les événements, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas comme si de rien n'était. Ça, c'est du déni. Elle ne s'enfonce pas non plus dans la tristesse et la dépression. Et enfin, elle ne résiste pas, car on dit dans mon métier, ce qui résiste, persiste. La personne résiliente parvient à faire face, à ressortir plus forte de cette expérience, à rester optimiste et confiante dans la vie. Bien sûr, le processus peut prendre du temps, parfois toute une vie, et passe par plusieurs étapes. Après la phase de choc, puis de colère, la prise de conscience de son état va être fondamentale pour faire naître l'envie de s'en sortir et trouver les leviers qui lui permettront d'y arriver. Alors pourquoi je vous parle de résilience dans le contexte actuel ? Les travaux ou recherches que j'ai pu mener dans le cadre de mes propres accompagnements auprès des entreprises dans des situations difficiles de crise ou de conflit m'ont montré que les phases de la résilience, de l'acceptation d'un deuil et de la conduite du changement étaient en fait très similaires. En effet, le processus psychologique suit généralement les mêmes étapes. Bien sûr, vous me direz qu'entre la violence faite à un enfant, le décès d'un être cher et le rachat de sa société, il y a deux poids, deux mesures, et vous aurez raison. Mais l'esprit, comme le matériau qui subit un choc, le vit de la même façon. Seule l'intensité diffère. Et dans la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, il serait irresponsable d'être dans le déni en disant « Tout va bien, ça va passer. » Il est démoralisant, vous le voyez bien, d'être dans le pessimisme. C'est dramatique, on va tous mourir, dont certains médias se délectent pour faire de l'audience et susciter encore plus d'anxiété. Il ne nous reste donc plus qu'une solution, développer sa résilience. La question est donc, comment peut-on faire et comment les entreprises peuvent aider leurs collaborateurs sur ce sujet ? Il faut savoir que le vécu et l'histoire personnelle de chaque individu jouent un rôle dans sa capacité à développer la résilience et à affronter les épreuves de la vie. Mais rien n'est figé dans le temps. Nous évoluons avec les années et il est possible de rebâtir la confiance en soi, en la vie et en son entourage au fur et à mesure que l'on grandit. Certaines personnes ont de meilleures bases et peut-être plus de chances que d'autres au vu de leur environnement familial lorsqu'ils étaient enfants. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance défaillante qu'on ne peut pas changer sa façon de voir la vie. Cela demandera parfois plus d'efforts et d'implications personnelles, mais il est toujours possible de cultiver la résilience. Le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik l'a démontré en médiatisant le concept de résilience dans les années 90 en le présentant comme, je cite, « l'art de naviguer dans les torrents ». grâce à son observation de survivants des camps de concentration ou d'enfants issus d'orphelinats roumains. On admire ainsi le parcours de personnes incroyables, comme Philippe Croizon, amputé des quatre membres et qui a relié les cinq continents à la nage et a participé au Paris-Dakar. Mais n'oublions pas que la résilience trouve aussi sa place dans l'entreprise. C'est le cas de celles qui se sont transformées pour revenir dans la course, comme Lego par exemple, qui était au bord du dépôt de bilan. Celles qui sont passées au digital pour mieux répondre à leurs clients, comme les banques. Celles qui ont su mobiliser leurs salariés pour sauver leur entreprise, comme PSA ou le Jabi. Celles qui ont décidé d'aller vers des marchés étrangers, comme nos entreprises de luxe. Celles qui ont innové en modifiant leurs recettes, comme BN, ou leurs outils de production, comme la cristallerie, la ligue, etc., etc. Boris Cyrulnik affirme que le malheur n'est pas une destinée. Rien n'est irrémédiablement inscrit. On peut toujours s'en sortir. Pour mieux vivre la situation actuelle, j'invite les entreprises à suivre ces quelques bonnes pratiques envers leurs collaborateurs. Tout d'abord, et plus encore qu'habituellement, donner du sens, un cap, des objectifs reconsidérés. Acceptez aussi que chacun vive les événements différemment et mettez en place des solutions d'écoute via les managers ou un référent externe. Soyez transparent et factuel dans votre communication. Mettez en avant les informations ou une initiative positive. Maintenez le lien social, la solidarité et la convivialité. Enfin, proposer des conférences, des ateliers ou des accompagnements pour les aider à prendre du recul. L'homme a déjà traversé bien des épreuves et c'est en développant son sens de l'adaptabilité qu'il a réussi à progresser. Certains en ont fait une force et les Japonais en ont même fait un art traditionnel, celui du kintsugi, qui consiste à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de profiter de vos proches. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à me contacter très vite. C'était Claire Britt pour la chronique Happy Work.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice?
Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans ces chroniques de Maître Marie, toujours enregistrées à mon cabinet rue Bayard, confinement 2 oblige. Aujourd'hui, je vous propose une chronique sous forme de bilan. Il y a un an, quasi jour pour jour, je vous proposais une chronique sur l'égalité, et plus particulièrement sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Chronique qui évidemment vous démontrait que cette égalité est loin d'être acquise. Je vous exposais le problème mais aussi les solutions décidées par le législateur pour régler celui-ci. Et une question donc aujourd'hui, où en sommes-nous? L'année dernière, les femmes ont commencé à travailler bénévolement puisque moins payées que les hommes à compter du mardi 5 novembre à 16h47, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. Cette année, le bénévolat a commencé le 4 novembre à 16h16, soit un jour plus tôt. Je vous fais un bref rappel des chiffres. Pour un temps complet, les femmes gagnent en moyenne 452 euros de moins chaque mois, soit 18,5%. À équivalent temps plein, le salaire mensuel net moyen des hommes s'élève à 2438 euros contre 1686 pour les femmes. Si l'on prend en compte les temps partiels, les femmes touchent 25,7% de moins. Et le bas blesse car les femmes sont 4 fois plus souvent à temps partiel que les hommes. Les différences ne sont encore pas les mêmes en fonction de l'endroit où l'on se place sur l'échelle des rémunérations. En bas de l'échelle, les 10% des femmes les moins bien rémunérées ont un salaire maximum inférieur de 7% à celui des hommes. En haut de l'échelle, l'écart se creuse. Là où un homme gagne en moyenne 3390 euros, une femme touche 3149 euros, donc 21% de moins. Le collectif Les Glorieuses, mené par Rebecca Amselem, a encore veillé pour nous cette année et réalisé quelques sondages. À la question « Pensez-vous normal que les femmes soient moins rémunérées que les hommes ?», 98% des femmes disent non, pour 88% des hommes. Mais encore et surtout, si 2% des femmes disent ne pas être d'accord, mais que ça peut se comprendre, 7% des hommes disent ne pas être d'accord, mais que ça peut se comprendre. Bref, il y a du boulot. Mais je vous exposais l'année dernière que la loi est intervenue. De nouvelles dispositions légales visant à atteindre la suppression effective des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes résultent de l'article 104 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi a pour but de mettre fin aux écarts de salaire injustifiés entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire qui ne peuvent être expliqués par des variables non discriminatoires relatives par exemple à la quotité de travail, au niveau de diplôme ou à l'expérience professionnelle. En principe, on a déjà tout ce qu'il faut dans l'attirail légal national et européen pour cadrer et interdire cette différence de traitement sur la rémunération. Mais attention, maintenant, on sanctionne. Maintenant, enfin, pas tout de suite. Regardez donc. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'article L1142-8 du Code du travail prévoit donc que l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Il n'y a donc pas que les banques qui feront l'objet de notations, mais également les entreprises. 5 indicateurs permettront d'évaluer la situation de l'entreprise en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de rémunération à poste et âge comparable, chance d'avoir une augmentation pour les femmes et pour les hommes, chance d'obtenir une promotion, part des salariés augmentée à leur retour de congé maternité dès lors que des augmentations ont été données en leur absence, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Le but, révéler des inégalités de traitement salarial, révéler les causes potentielles de ces inégalités. Chacun d'eux donnera lieu à l'attribution d'un certain nombre de points selon un barème détaillé pour un total général noté sur 100. Une note globale inférieure à 75 aurait pour effet de déclencher l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures adéquates et pertinentes de correction, voire une programmation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage salarial, et de se mettre en conformité dans un délai de 3 ans. Le ministère du Travail avait d'ailleurs mis en ligne sur son site internet un tableur Excel dans ce but. Et dans ce système, l'entreprise s'auto-évalue. Les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts injustifiés de salaire homme-femme seront sanctionnées à partir de 2022 avec une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale. Si on se résume, avant 2022, le contrôle de l'inspection du travail va porter sur la mise en place du logiciel, mais aussi sur l'obligation de transparence du résultat au sein de l'entreprise, obligation de diffuser le résultat global sur le site internet et communication des résultats aux élus du personnel par catégorie de poste. À partir de 2022, ils porteront aussi sur les résultats. Et c'est dans ce cadre que le collectif des Glorieuses demande la mise en place d'un certificat d'égalité salariale au sein des entreprises. Car en effet, selon une économiste interrogée par le collectif, l'index utilisé ne serait pas objectif et permettrait même aux entreprises de donner une impression d'égalité quand ce n'est pas le cas. Rachel Silvera est économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre et co-directrice du réseau de recherche MAGE, Marché du travail et genre. Elle est auteure de « Un quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec les inégalités salariales » pardon, et elle nous explique. Cet index laisse de la place à de nombreux biais statistiques. Par exemple, la mesure de l'écart salarial, indicateur 1, possède un seuil de pertinence de 5%. Ainsi, lorsqu'une entreprise possède par exemple un écart salarial global de 15%, elle est autorisée à le faire passer à 10%. Et d'après le barème, avec 10% d'écart de salaire, l'entreprise peut déjà obtenir une note de 20 sur 40 points pour cet indicateur. C'est pourquoi, mis à part quelques entreprises qui ont été pointées du doigt par l'ancienne ministre Muriel Pénicaud, la plupart des grandes entreprises en ont eu quasiment tous leurs points en ce qui concerne l'égalité salariale. Ce n'est donc pas un bon outil. Au contraire, il permet de conforter les entreprises dans l'idée qu'elles respectent l'égalité salariale alors que ce n'est pas le cas. Cet outil ne mesure que l'écart salarial à poste strictement égal, qui est estimé être en moyenne de 9%. Pour ma part, je conteste ce chiffre car il neutralise d'autres sources d'inégalités liées au temps de travail, à la ségrégation professionnelle, au plafond de verre et aux parois de verre. Si on prend ces facteurs en considération, alors les femmes sont payées en moyenne un quart de moins que les hommes. Ce chiffre exige un chantier d'action colossal. Il demande de lutter contre le temps partiel court, la revalorisation des emplois féminisés, etc., etc. D'ailleurs, l'indicateur ne s'intéresse qu'aux femmes d'en haut. Le quatrième indicateur exige qu'il y ait au moins 4 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise, 10 points. L'index oublie les femmes d'en bas, alors que c'est plutôt elles qui seront impactées par la pandémie de Covid-19. Autrement dit, En termes d'effectivité, on n'est pas au mieux. Mais comment font nos voisins alors, proches ou lointains? Au Canada et dans l'Ontario, les grandes entreprises doivent suivre et signaler les écarts de rémunération entre les sexes. En Suisse, les entreprises qui candidatent pour des marchés publics doivent démontrer qu'elles paient les hommes et les femmes de façon égale. En Suède, les moyennes et grandes entreprises doivent réaliser un audit sur les pratiques en matière d'égalité des salaires. En Allemagne, les femmes peuvent connaître le montant du salaire de 6 collègues masculins occupant des postes équivalents. Et en Angleterre, les entreprises à partir de 250 employés sont obligées de publier leurs chiffres concernant les différents écarts salariaux et de hiérarchie. Un modèle efficace semble émerger au milieu de tout cela, le modèle finlandais. La Finlande est le champion de l'égalité homme-femme. Depuis 11 ans, elle arrive en tête du classement de l'indice de parité du World Economic Forum, le WEF, avec une note de 0,88 contre 0,78 pour la France. Mais quel est donc le secret ? Le WEF rappelle que l'Islande, oui je vous ai dit la Finlande, pardon, c'est l'Islande, a été le premier pays à élire une femme chef d'État au suffrage universel direct en 1980. Près de la moitié de ses députés et directeurs d'entreprise sont des femmes. Les garderies sont subventionnées. Les congés parentaux sont équitablement répartis au sein du couple. Mais surtout, au printemps 2017, l'Islande a promulgué une loi qui oblige les employeurs de plus de 25 salariés à prouver qu'ils répondent à une norme d'égalité salariale, le Equal Pay Standard. Après vérification par un organisme indépendant que l'entreprise paie effectivement un salaire égal pour un travail de valeur égale à tous et toutes ses employés, un certificat lui est délivré. Si ce n'est pas le cas, elle reçoit une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 couronnes par jour, soit environ 400 euros. Autrement dit, par rapport au système français, la charge de la preuve est inversée. Ce n'est pas aux salariés de réunir des éléments tendant à démontrer qu'il ou elle aurait subi une discrimination salariale, mais dès le départ, c'est à l'employeur de prouver qu'il respecte les règles de l'égalité salariale. Quant à l'amende de non-respect, on est loin là aussi en termes d'effectivité de notre sanction pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale, puisque en Islande, c'est 400 euros par jour, tant qu'on n'est pas raccord avec les textes. Autre mesure proposée par le collectif Les Glorieuses, rendre obligatoire le congé paternité et de la même durée que le congé maternité post-accouchement. Avec une loi votée récemment par notre Parlement, à partir du 1er juillet 2021, la durée du congé existant passera de 25 jours de congé paternité et 3 jours de congé de naissance, donc 28 jours au total. Mais celui-ci reste facultatif. Le collectif Les Glorieuses propose qu'on le rende obligatoire. Alors qu'on fait les enfants à deux, les femmes ne vivraient plus seules, ce qui peut être considéré comme être pénalisé du fait de ce congé, ou du moins, parce que les hommes bénéficieraient du dit congé, la question de son caractère gênant ou non ne se poserait plus. Là où les parents seraient à égalité en termes de durée de congé, hommes ou femmes. Les Glorieuses proposent également que la loi rende obligatoire l'existence d'un référent égalité salariale au sein de l'entreprise. 84% des femmes interrogées ont voté oui, contre 67% des hommes. Ce dispositif reprendra un concept déjà existant pour le harcèlement sexuel et qui a vocation à faire de la prévention vis-à-vis des salariés, mais également de repérer les cas problématiques et de contribuer à les régler. Vous le voyez, un an après, et une loi avec l'égalité salariale pour objectif plus tard, les femmes commencent leur bénévolat un jour plus tôt que l'année dernière et les écarts de salaire n'ont presque pas bougé. Si la route de l'égalité est ouverte, elle est encore bien longue. Et l'on ne peut s'empêcher de remarquer que le système est efficace dans un pays dans lequel les femmes sont investies, y compris au plan gouvernemental et politique, et donc décisionnaires. Alors mesdames, très simplement, je vous le dis, malgré toute la bonne volonté de notre législateur, ou du moins la bonne volonté apparente et affichée, je crois sincèrement qu'il va nous falloir y aller. Je vous laisse donc réfléchir à votre engagement, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
Je suis ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus à la Casa de Ebel. Jour de Brumaire, jour anniversaire de naissance d'un grand homme d'État. J'ai nommé Winston Churchill, j'ai décidé de modifier quelque peu la forme de la Cassade aujourd'hui. Vous retrouverez vos rubriques habituelles dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un billet d'humeur. Je l'ai intitulé « Et si la Terre avait décidé de se débarrasser de ses parasites ?» Comment s'y prendrait-elle ? Une comète ? Une éruption solaire titanesque ? L'extinction du Soleil ? Une collision avec la Lune ? une invasion extraterrestre, ces solutions demandent des interventions externes. Imaginons alors qu'elle décide de le faire seule. Comment pourrait-elle s'y prendre? Une augmentation brutale de sa température? Pourquoi pas malheureusement? Certains habitants de la planète qui ne lui font pas de mal risqueraient de disparaître également. La planète bleue n'est pas de ce genre-là et ne veut se débarrasser que des parasites qui lui font du mal, qui se comportent mal avec elle, qui ne savent que profiter d'elle sans lui rendre un minimum d'égards. Les dégâts collatéraux seraient dommageables. Destruction d'autres êtres vivants qui, eux, ne lui veulent pas de mal. Alors comment peut-elle faire pour se sauver? Elle pourrait procéder à une attaque ciblée qui toucherait spécifiquement les parasites ciblés. Lorsque nous souhaitons nous débarrasser d'un parasite, nous utilisons généralement des produits souvent très violents, sans nous rendre compte qu'ils ont un impact sur la planète. Notre comportement ressemble à celui d'un parasite envers la planète. Et si la Terre décidait de se débarrasser de ces parasites? Quelle meilleure idée qu'une pandémie pour éradiquer, ou tout du moins diminuer drastiquement le nombre de ces parasites? Et si cette pandémie ne trouve pas sa cible, soyons certains que la nature tentera de trouver une autre solution. Et je crains que celle qui est en cours avec le dérèglement climatique ne soit plus efficace. Alors, pourquoi continuons-nous à nous comporter ainsi? Petite mise en perspective. Imaginez que sur une échelle de temps d'une année, Homo sapiens, l'homme moderne, s'invite sur la scène mondiale à 23h48, le 31 décembre, bien entendu. Et l'on a peu de traces de son activité jusqu'à la dernière minute de l'année. À 23h59 minutes et 20 secondes, il orne la grotte de Lascaux. Dans les secondes qui suivent, il invente l'agriculture. À 23h59 minutes et 47 secondes, il commence à écrire et à fondre les métaux. 2 secondes plus tard, il construit les grandes pyramides de Gizeh. Et pour un être vivant de 80 ans, il apparaît 1/6 de seconde avant la fin de l'année. Comment se fait-il que l'être humain ait décidé de piller sa terre nourricière sans se rendre compte qu'il courait à sa propre perte, en modifiant de façon irrémédiable le fragile équilibre qui a mis des millions d'années à se créer? Est-il assez stupide pour croire qu'il peut vivre en permanence à crédit pour satisfaire son petit confort et son bien-être au détriment des autres espèces avec qui il partage cette belle planète bleue? Comme le dit Don Miguel Ruiz dans son ouvrage « Les 4 accords Toltec », la domestication de l'être humain rend possible cet état de fait. Quand ce phénomène a-t-il commencé? Qui sert-il? Pourquoi est-il si difficile de s'en dépêtrer? Si on imagine qu'un petit groupe d'êtres humains ait décidé un jour, il y a bien longtemps, de mettre en place cette idée de domestification, il est tout de même difficile d'imaginer que ce phénomène se soit propagé à travers les âges sans qu'ils ne connaissent aucun soubresaut. Dans ce cas, il est sûr que les règles mises en place au démarrage ont été imaginées par des personnes capables de prévoir tous les changements qui auraient pu intervenir, qui sont intervenus et qui interviendront dans le futur. Imaginer un homme vivant, il y a quelques dizaines d'années, prévoir l'explosion d'Internet me paraît quelque peu difficile. Et encore plus, un homme vivant au moment de la Révolution française. Donc si ce n'est le fait d'un groupe d'êtres humains, comment en sommes-nous arrivés là? Il serait facile de parler de la cupidité de l'homme, mais malheureusement, il est fort probable que ce trait de caractère soit responsable de ce qui arrive à notre belle planète. Autre idée à creuser, le confort que procure la détention de biens matériels. Avoir toujours plus pour avoir la sensation d'être bien. Pourquoi avoir toujours plus chez soi, à soi? Est-ce cela la définition du bonheur? Comment faire pour toujours avoir plus sans avoir plus de moyens? Il faut toujours produire moins cher en exploitant des personnes qui n'ont pas encore atteint notre niveau de développement. Pourquoi acheter un nouvel appareil alors que le précédent fonctionne encore très bien? Simplement car le nouveau a une nouvelle fonctionnalité. Et que faire de l'ancien? Il peut être revendu, dans le meilleur des cas, ce qui permet de ne pas polluer immédiatement la planète. Sinon, il est jeté et fini dans des poubelles géantes, situées dans des pays que l'on ne regarde pas pour ne pas se rendre compte des dégâts que nous provoquons, à ce moment-là, envers d'autres hommes qui acceptent nos poubelles en échange d'un peu d'argent. La contrepartie est que nos poubelles disparaissent de notre vue et que nous ne nous rendons plus compte que notre modèle de consommation repose sur le gaspillage. Nous en profitons également pour nous donner bonne conscience. De plus, il est possible de toujours trouver plus pollueurs que nous. Encore une façon de se donner bonne conscience. Et qu'en est-il des dirigeants de la planète, qu'ils soient politiques, économiques ou industriels? Ont-ils conscience que ce mode de fonctionnement ne pourra pas durer indéfiniment? J'imagine aisément qu'ils ont des enfants, voire des petits-enfants. N'auraient-ils pas envie que ces derniers puissent vivre correctement dans les décennies qui viennent? J'en doute, et c'est triste pour tout le monde. Néanmoins, j'espère me tromper. Et ensemble, levons-nous et sauvons notre planète. C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre écoute, à ce billet d'humeur, à la réalisation Yanis, qui m'accompagne au cours de cette nouvelle saison.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». J'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour la lecture de l'avant-dernier chapitre du roman « Superman ne volera plus » de Gilbert Noguès aux éditions Kern. Nous débutons donc par le couplet d'une chanson de Loïc Lantoine, « À l'attaque ».
C'est pas fini, ça continue. Vas-y patron, c'est moi un rêve, je te le paierai en fourri, il n'est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir.
Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Bernard Pezuc, je ne serai pas disponible de toute la semaine prochaine. J'ai décidé de prendre un peu de recul dans un monastère pour me ressourcer. Vous pouvez me laisser un message. À très bientôt. Feu Chaudron, avant de partir en flammes, avait lâché le morceau, histoire de se déculpabiliser et de vouloir faire porter le chapeau à Pezuc. Ce dernier en portait-il un d'habitude? Il avait payé, quelle que soit sa responsabilité dans la mort de Jojo, et d'un, pour cette raison principale, et de deux, pour n'être qu'un résidu de la peste brune. Un faf, une balle. C'était clair et pas discutable. Pezuc, c'est toi ? Avait lancé Gégé à la face de Mustélidé surpris du petit homme qui nous avait ouvert. Aussi large que haut, un front, peut-être national, plissé, quelques rares cheveux autour des tempes et une mèche ridiculement longue qui partait d'une raie sur le côté droit pour finir de l'autre, tentant de masquer une calvitie avancée. Pezuc, car il s'agissait bien de lui, avait fait le pas de recul de trop qui avait permis à Gégé de mettre un pied dans l'encoignure de la porte et dans le mouvement de propulser le cube au sol. Pezuc n'avait pas eu le temps de prononcer le moindre son que je lui avais enfoncé dans la bouche le papier d'emballage du camembert que nous avions dégusté sur un banc du jardin japonais, pile en face de l'immeuble. Muet qu'il était, il n'avait pas pu me saluer comme il se doit entre gens qui se connaissent. Mais j'avais bien noté à son regard ahuri, et d'ahuri aussi, qu'il m'avait reconnu et que ma présence le surprenait. Ses yeux globuleux et perpétuellement agités tentaient désespérément de se fixer sur moi et leur mouvement incessant d'essuie-glace me laissait de marbre. Gégé l'avait saisi sous les épaules et le tché par les pieds, et il l'avait traîné sur une dizaine de mètres au milieu de la pièce. Faut vous dire que le Pezuc en question ne se contentait pas d'un réduit au pied d'un immeuble. Non,
Ce monsieur disposait de l'intégralité du dernier étage et la pièce à vivre aurait pu, sans paraître surchargée, permettre à moi-même et à une bonne trentaine de sans domicile fixe de s'y installer avec leur chariot de supermarché. Le cul posé sur un Voltaire, ligaturé avec un rouleau de papier adhésif, Pesuc n'en menait pas large, même si son tour de taille avoisinait le double mètre. « On va t'enlever le papier que t'as dans la gueule », lui avait signifié Consuelo. « Si tu hurles quoi que ce soit, je demande à Gégé de te calmer. » Ses yeux balayaient l'espace entre la divine et le géant, ou bien à Spartacus de te bouffer les roustons. La vue de ce chien à roulette avait-elle quelque chose d'invraisemblable, ou l'animal qui montrait les dents le terrifiait-il à tel point que ses yeux s'étaient figés sur le champ ? « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Il voulait savoir pourquoi nous étions là. Consuelo m'avait désigné du doigt. « Lui !» Sa tête s'était tournée vers moi. J'avais bombé le torse pour ne pas paraître aussi dérisoire que mon corps l'attestait. Son regard avait tenté de croiser le mien. « Tu le connais ?» Je plissais les yeux pour contrebalancer l'agitation des siens. Le mouvement de tête qu'il avait fait laissait entendre qu'il savait qui j'étais, même si depuis son premier coup d'œil, j'en avais eu la confirmation. « Je croyais que vous... que j'étais mort ?» Lui aussi, tout comme Chaudron, se posait la question. « Eh ouais, mon gros !» Consuelo trouvait enfin quelqu'un à sa mesure. « Comme tu vois, Superman, il vole. Ça t'étonne ?»« C'est pas... possible ?»« T'as raison. Alors tu vas nous expliquer ? Tu dois bien avoir une idée ?» Vous êtes des salopards. Nous sommes des gens bien, polis, éduqués, discrets, serviables, attachés aux convenances, en particulier Gégé, dont la gifle, pas vraiment amicale, s'était abattue sur la joue de Pesuc, lui signifiant notre désaccord avec ses propos discourtois.
« Tu devrais éviter d'énerver mon copain Gégé, » lui avais-je susurré à l'oreille échauffée.
Il avait bégayé quelques bribes de phrases indistinctes, s'était prostré dans un mutisme fin, avant de nous déclarer dans un pur élan de générosité « Je peux vous donner de l'argent !» Décidément, lui aussi croyait s'en sortir comme ça. C'est incroyable comment tous ces gens bourrés de fric croient tout pouvoir se payer. « On va te dire une chose, espèce de morse puant. Consuelo y va fort, quoique... Ton putain de pote Chaudron, tu vois de qui je parle ? Ton copain qui s'est volatilisé en même temps que sa putain de baraque, hein ? » En quelques secondes, Pesuc venait au moins de perdre une dizaine de grammes. Je ne m'inquiétais pas, tant il se liquéfiait en imaginant ce qui pouvait lui arriver d'ici peu. Le Voltaire devait, à cet instant, et bien malgré lui, éponger l'imperceptible suintement de son postérieur. Consuelo avait mis les choses au point. Elle avait signifié à Pesuc qu'il était non pas en état d'arrestation, ça c'est le boulot des flics, mais en état d'enlèvement, et qu'au lieu de s'embêter à trouver un endroit propice, le plus simple était encore de le contenir dans son propre appartement. « Tu te souviens pas ?» avait-elle précisé. « T'es trop con pour ça. » Mais dans les années 70, un enfoiré dans ton genre, Suarez, un banquier, ça te dit quelque chose ? Eh ben, des copains, ils l'ont mis au frais pendant quelques jours. Pesuc avait fermé les yeux, enfin, et la tête enfoncée dans le dossier du Voltaire, il écoutait le réquisitoire de Consuelo. Des potes à nous, qui se sont fait chier à trouver un appart, qui se sont fait chier à le nourrir. Nous, on va faire plus simple. On va s'occuper de ton éducation. Tu vas comprendre ce que c'est la lutte des classes. T'en as entendu parler ? Pesuc secoua la tête. T'inquiète, on va parfaire ta formation. On attaque dès demain.
Voilà, chers auditeurs, pour connaître la fin du roman, je vous invite à m'écouter la semaine prochaine à la même heure. En attendant, vous pouvez écouter tous les podcasts de toutes les émissions
sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour Android. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.